À Canalem, on aime l'été. Bonjour mes amis, bonjour à vous toutes et vous tous. Clotilde, vous présentez toute seule aujourd'hui l'émission Aime l'été, mais je serai bien entourée, croyez-moi. Alors aujourd'hui, à l'émission Tout le monde dehors, et quand on dit tout le monde, c'est tout le monde. Et bien la chronique d'Yvan Deslauriers nous le prouve aujourd'hui même. Et qu'en est-il du bénévolat au Québec? Des nouvelles données sont sorties, on va également en parler avec une personne un petit peu plus tard à l'émission. Il y a, figurez-vous, des gens qui font des choses extraordinaires dans le monde. Une journaliste française a recueilli un Tchadien dans sa famille et c'est François de Beaulieu pour une première chronique qui nous présente un entretien avec elle dans le cadre d'une chronique qui s'appelle « Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde » diffusée sur Facebook. La SPCA déborde d'animaux abandonnés, les usines à chiots prolifèrent, c'est aussi ça l'été et on aime moins ça. Chronique toponymie avec Christiane Campagna. Aujourd'hui, Jeanne Mance est à l'honneur. Et on finira en littérature avec Yannick Olassa qui nous présente un livre à lire ou, si vous préférez, à vous mettre entre les oreilles. Ça s'appelle « Zut, j'ai raté mon gâteau » d'Annie l'Italien. C'est un chœur d'enfants belges que nous venons d'entendre. Il s'appelle Les Enfantastiques. À chaque fois qu'ils font des concerts ou des choses comme ça, ça va alimenter soit des fondations, soit des causes. Et il y en a un qui est ici aujourd'hui parce que justement, lui, il en épouse des causes, ouais, mais notamment.
Je ne suis pas un Eddy Merckx sur mon
vous
vélo.
Vous n'êtes pas un Eddy Merckx sur votre vélo, Yvan Deslauriers, mais vous êtes pépère à vélo.
Oui,
Et ce n'est pas péjoratif de dire ça, c'est comme ça que vous vous nommez vous-même.
Oui, oui. Bien, quand j'ai commencé, c'est la 9e année que je fais des événements de vélo. Je soutiens des événements de vélo pour le financement de différents organismes. Et je me suis prénommé le pépère à vélo.
Le pépère à vélo.
Il y a 9 ans, J'avais 53 ans à l'époque. J'avais pris ce surnom-là pour par dérision, je pense. Mais là, de plus en plus, j'avance vers vraiment mon surnom.
Le surnom de Pépère à vélo, qu'on peut retrouver, d'ailleurs, vous avez une page Facebook.
Oui, on a un blog. Pendant les 6 premiers mois de l'année, on écrit un blog à tous les dimanches pour, entre autres, informer les gens qui m'aident dans le financement des différentes œuvres pour lesquelles je pédale.
Oui.
Qu'est-ce qui nous arrive?
Oui.
Puis on s'est mis à raconter toutes sortes de choses.
Mais votre vrai nom, Pépère à vélo, c'est quand même Yvan Deslauriers. On vous connaît parce que vous êtes bénévole également ici en lecture.
Oui.
Et puis vous êtes bénévole le matin aux voix de service.
À la radio le jeudi, oui. Puis je m'occupe justement des activités.
Alors,
physiques.
Dont vous allez nous parler maintenant.
Oui, mais en fait, le mandat que tu m'avais donné cet été, c'était de venir parler d'activités physiques.
Oui.
Et puis là, j'avais vraiment étudié. Puis je vais peut-être utiliser le sujet, d'ailleurs, les activités aquatiques pour les personnes handicapées.
Ah oh oui.
Puis toutes les adaptations, c'est vraiment fascinant.
Oui, oui.
Mais en fin de semaine, j'ai roulé 275 km pour la maison des greffés Linacir.
Oui.
Et j'ai roulé pendant un bout de temps avec un bonhomme fascinant qui organise depuis 12 ans cette randonnée-là et qui a permis d'amasser... plus $1,200,000. Je parle d'un monsieur qui s'appelle Patrice Dionne.
Oui.
Alors, j'ai roulé avec une personne qui aurait pu être morte 3 fois dans les dernières années. C'est la première personne au Québec qui a eu une transplantation cœur-foie en même temps.
Oh.
Alors, il y avait une malformation cardiaque. Il m'a donné la permission de jaser de lui en passant. Alors,
ah, d'accord.
Si jamais ça arrive dans ses oreilles, il sait de quoi on parle. On parle de la jasette qu'on a eue en vélo la semaine dernière. Donc, à 33 ans, il apprend qu'il y a une malformation congénitale au cœur.
Mm-hmm.
Alors, il y a des pacemakers. Mais comme 16 ans plus tard, les pacemakers ont de la misère à faire le travail pour son cœur et il apprend qu'il va avoir besoin d'une transplantation. Jusque-là, c'est tragique, mais c'est normal, jusqu'à un certain point. Le seul problème, c'est que ça a pris au moins 3 ans pour trouver un donneur. Et pendant cette période de 3 ans-là, son cœur ne faisant pas assez bien le travail, son foie en a souffert. Alors, il devait chercher maintenant un donneur pour le cœur et le foie et le faire en même temps. C'est parce que ces organes-là ont été trouvés. Lui, il vient de la Beauce, en passant. Et il a un sens de l'humour incroyable. S'il y a des gens qui se sentent tristes un jour, là, vous l'appelez. Parce que lui, il nous...
Ah, je pense qu'il y a...
Oui, ah, c'est Siri qui a lancé.
Je pense que votre Siri vient de vous dire...
Siri, elle m'a parlé.
Tais-toi, Siri. On est en onde. Voilà.
C'est drôle, c'est arrivé à Marie la semaine dernière. Fait qu'on a, on a le couple, là, présentement. Alors, Patrice, là, on peut l'appeler quand on file pas, puis lui, il va nous retaper ça, là, correct. Alors, à un moment donné, on apprend que... Bon, il est dans la liste pour attendre un greffe cœur-foie. Et une chance qu'il était en très bonne forme physique, parce que ça lui permettait de survivre, littéralement de survivre. On apprend que quand il est dans la liste, dans les 10, dans la liste, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 10.
Mm-hmm.
Lui, il vient de la Beauce. Il faut qu'il soit à Montréal parce que la transplantation, le jour que ça va arriver, ça va se faire à Montréal.
D'où l'utilité de la Maison des greffés.
Tout à fait. La Maison des greffés permet à des gens de l'extérieur de Montréal de venir vivre littéralement près de... dans ce cas ici, c'était le CUSUM. C'est des universitaires, l'Université McGill qui ont fait... t'imagines? 16 médecins qui ont travaillé sur cette transplantation quand ça s'est fait pendant 6 heures. Ça veut dire des médecins qui enlèvent l'organe, d'autres médecins qui remettent le corps. C'est incroyable. Et tout ça s'est bien passé. Mais quand quelqu'un arrive à la maison des greffés, ben il ne sait pas quand les organes, ça peut être long. Et il ne repart pas tout de suite chez lui parce qu'il y a des suivis, etc. Alors, c'est un endroit, c'est un ancien couvent, c'est tout près d'ici d'ailleurs.
Mm-hmm.
C'est sur Sherbrooke, près de Bordeaux. Physiquement,
d'accord,
on est
d'accord,
tout près.
Oui.
Et il nous raconte souvent... avec un de ses amis, qu'il arrive de la Beauce, son ami il vient de l'Abitibi, puis c'est quoi le grand parc qu'il n'y a pas loin? C'est le parc La Fontaine.
Ouais.
Alors, ils se promènent, eux autres, le soir, au parc La Fontaine, Puis là, ils aperçoivent la faune et la flore du parc La Fontaine. Alors, ils racontent toutes sortes d'anecdotes comme ça, culturelles, socioculturelles. Mais il a survécu. Maintenant, il fonctionne vraiment très bien. C'est pour ça qu'il y a quelques années, il s'est payé un cancer. Un cancer aux intestins. Et il a survécu à ça. Et j'ai pédalé avec lui en fin de semaine dernière. Et il me racontait que...
Il a fait les 275 km
non,
avec vous,
parce qu'il y a un problème au pied. J'avais oublié de vous dire. Il y a un problème au pied. En fait, quand il pèse sa pédale, donc il a fait à peu près 200 des 275.
Mais quand même.
Et c'est lui qui fait l'initiation des nouveaux le soir entre les deux. Parce que le 275, on ne fait pas ça dans la même journée quand même.
Non,
en deux jours. Oui. Mais le soir, c'est lui, il prend un personnage qu'il invente et il nous présente les nouveaux cyclistes de cette année-là. C'est une soirée absolument délirante.
Alors, la Maison des greffés, évidemment, vous nous en parlez aujourd'hui parce que c'est important de signer sa carte de donneur.
Non seulement c'est important de signer sa carte de donneur, mais c'est important d'en parler à son entourage. Parce que malheureusement, le jour qu'on décède, c'est pas nous qui prenons la décision de donner les organes ou non, c'est les gens qui nous entourent. Alors, les médecins vont se tourner vers nos proches pour pouvoir décider est-ce qu'on donne les organes ou non. Au Québec, de 2012 à 2016, c'est les derniers chiffres que j'ai, les gens qui étaient sur la liste d'attente, c'est passé de 1250 à 841. Donc, il y a un tiers de moins de gens sur la liste d'attente parce qu'il y a plus de donneurs. Mais on ne décide pas d'être donneur. C'est pas n'importe quel accident qui fait qu'on a des organes qu'on puisse donner. Donc, c'est très important. On ne sait pas comment ça peut arriver, mais c'est très important de signer sa carte. Et d'en parler.
Vous vouliez finir en nous parlant d'un film rapidement,
Réparer
les vivants.
Si on veut connaître un petit peu comment ça fonctionne, c'est un livre qui s'appelle Réparer les vivants.
Ah, c'est un livre, ok, d'accord.
C'est d'abord un livre, c'est devenu un film de Maëlys D. Kerangal. J'ai lu le livre et j'ai vu le film. C'est superbe parce que ça nous montre les deux côtés de cet événement-là. Le jeune garçon de 19 ans qui meurt dans un accident d'automobile, mais qui n'est pas affecté, ses organes ne sont pas affectés. On le garde en vie, ses parents arrivent le voir, il a l'air vivant, mais il est cérébralement décédé. Et on voit aussi l'autre côté, les gens qui attendent et qui vont éventuellement recevoir un organe, et comment leur vie, tout simplement, à un moment donné, est chamboulée parce que leur espoir prend un aspect concret. Et on peut espérer de vivre et d'avoir une autre vie. C'est fascinant. C'est fait avec beaucoup, beaucoup de douceur. C'est un très beau livre et un très beau film.
Réparer les vivants. Merci beaucoup, Pépé Ravello. Autrement dit,
bienvenue.
Yvan Deslauriers.
Mes chaussures sont aussi pourries que celles des gens qui passent ici. Mon manteau n'est pas beaucoup plus neuf. Celui du pauvre Rutebeuf. Moi j'ai mal au dos comme tout le monde. Des coups de blouse et mes ondes d'ombre. On n'a pas trop mais on a du bol. Et nos vies chantent. On est bénévoles. Bienvenue dans ma vie.
Dans ma maison y'a ni plus ni moins. Ni plus ni moins que chez le voisin.
Un peu plus d'amour à partager
et moins de temps devant la télé.
Je ne dis pas trop ce que je fais. L'humain n'était pas ici, c'est succès.
Pas de médaille ni d'auréole. On n'est pas des saints, juste des bénévoles.
C'est comme ça que je vis.
Bienvenue dans ma vie.
Bienvenue dans ma vie.
Et quand on me demande pourquoi et qu'est-ce manteaux sont pas beaucoup plus neufs que celui du pauvre Ruteveuf.
Ça, c'est le collectif Les Enfoirés qui avait été créé par Feu Coluche et qui nous interprétait la chanson sur le bénévolat. Bonjour Marilyn Fournier.
Bonjour.
Madame Fournier, laissez-moi le soin de vous présenter un peu à nos auditeurs. Vous êtes directrice générale du Réseau de l'Action Bénévole du Québec, autrement dit le RABQ. Et on vous a invité aujourd'hui pour nous parler de nouvelles données sur les bénévoles et le bénévolat au Québec. Alors, le réseau de l'action d'abord bénévole du Québec, ça regroupe pas mal d'organismes, je pense. Hein?
Oui, en fait, notre réseau regroupe 26 organismes ou regroupements nationaux. Donc, mm-hmm. ce sont des regroupements d'organismes qui eux-mêmes rassemblent plus de 6000 organismes qui travaillent avec des bénévoles au Québec et près de 1,6 million de bénévoles qui sont rattachés à ces 6000 organismes.
Alors, le 19 juin dernier, lors de votre assemblée annuelle, vous avez présenté un cahier de recherche qui s'intitule « Portraits généraux des bénévoles et du bénévolat ». Sur quoi portait exactement cette recherche?
En fait, ce qu'on voulait, c'était portraits régionaux des bénévoles et du bénévolat.
Oui.
Donc, ce qu'on voulait établir, c'était le profil des gens impliqués dans chacune des régions administratives du Québec. Alors, nous sommes assurés d'avoir une proportionnalité régionale, ce qui nous a mené à interviewer plus de 2200 bénévoles à travers le Québec. Donc, ce qu'on voulait aller chercher à savoir, c'était, bon, au niveau des tranches d'âge, donc quel âge ont les bénévoles, depuis combien de temps est-ce que les gens sont bénévoles, combien d'heures par mois ils consacrent à leur bénévolat, est-ce que les motivations pour débuter son implication et pour poursuivre son implication sont différentes, est-ce que le bénévolat est contagieux, donc est-ce que le fait de s'impliquer bénévolement donne le goût à mon entourage de s'impliquer également, le type de tâche qui était effectué par les bénévoles, le secteur d'activité, alors vous voyez, c'était quand même assez large comme
spectre
qu'on
d'accord.
voulait dresser, exactement.
Et quelles sont les grandes réponses que vous avez obtenues, du moins peut-être les plus surprenantes?
Mais en fait, on n'a pas été surpris de voir l'impact sur notre entourage là, du fait de faire du bénévolat, mais on a vu qu'il y avait quand même une grande différence entre les bénévoles et les non-bénévoles. Par exemple, si on demandait aux bénévoles, est-ce que votre conjoint s'implique bénévolement? Près de la moitié des bénévoles nous ont répondu oui, alors qu'on avait 1300 personnes qui n'étaient pas bénévoles qui ont quand même répondu une partie de sondage, et pour eux, c'était seulement que 9%. Pour qui les conjoints étaient bénévoles. Donc, on a pu faire ce lien-là avec les parents. Est-ce que vos parents ont fait du bénévolat? Est-ce que vos enfants font du bénévolat? Est-ce que votre conjoint fait du bénévolat? Donc, ça nous a confirmé que le bénévolat peut être contagieux. Donc, le fait d'être bénévole, d'être bien dans mon bénévolat, je risque de donner le goût aux gens autour de moi de s'impliquer aussi.
Et d'une région à l'autre, il y a des variantes?
Il n'y a pas tant de variantes que ça d'une région à l'autre, sauf peut-être pour le nombre d'heures consacrées au bénévolat. Donc, il y a des régions qui sont, bon, qu'on dit traditionnellement éloignées des grands centres, où le nombre d'heures de bénévolat est plus élevé. Par exemple, la moyenne au Québec est de 10,2 heures par mois et le nord du Québec est à une moyenne d'heures de 15,3 et la Gaspésie et la Madeleine de 12,5. Donc, dans les régions plus éloignées des grands centres, il semblerait que les gens qui s'impliquent bénévolement font plus d'heures mensuellement pour leur bénévolat.
Et alors, j'ai été contente de lire dans les résultats, vous avez aussi amené un sondage. Hein, c'est la firme SOM, je crois, qui a mené un sondage Omnibus pour le compte, justement, du Réseau de l'Action Bénévole du Québec.
Oui.
Et auprès de 1000 répondants. Et d'après les résultats de ce sondage, quelle ne fut pas mon heureuse surprise de lire que 38% des Québécois offrent de leur temps à des organismes, alors que 75% de la population offrirait des services directement et gratuitement à des individus sans être associé à un organisme. Oui. Je trouve que ce sont des données tout à fait fantastiques.
Oui, tout à fait. Alors, on voit que l'altruisme est bien présent chez les Québécois. La question de solidarité et d'entraide.
Oui.
C'est sûr qu'il faut être prudent avec la statistique de 75%.
Oui.
Parce que tout le monde n'a pas la définition de ce que c'est une action bénévole.
Mm-hmm.
Alors, partant du principe que l'action bénévole est libre et gratuite, donc je suis pas obligée de le faire et je suis pas rémunérée pour le faire.
Mm.
Si je vais aider un voisin avec son aménagement paysager volontairement et gratuitement, moi, je me considérerais pas comme bénévole, mais peut-être qu'une autre personne qui ferait la même action se considérerait comme bénévole. Donc, faut quand même faire attention à ce chiffre-là, mais c'est très encourageant sur la propension des Québécois à aider son prochain, ça c'est clair.
Est-ce que, si une personne en ce moment nous entend et ne sait pas quel bénévolat choisir, est-ce que vous êtes une bonne référence pour la guider?
Oui, on pourrait être une bonne référence pour la guider. J'aurais tendance à la référer au site Internet qui est tout nouveau, qui a été lancé le 24 janvier dernier par la Fédération des centres d'action bénévole, qui est jebénévole.ca. Alors, bien que ce soit porté par la Fédération des centres d'action bénévole, il y a plusieurs organismes qui vont déposer des offres de bénévolat de tous les secteurs d'activité. Donc, ce n'est pas seulement que pour être bénévole pour un centre d'action bénévole, il y a aussi d'autres organismes qui mettent leurs offres de bénévolat à cet endroit. Et les candidats bénévoles peuvent se créer un profil. Donc, si jamais ils ne voient pas d'offres de bénévolat qui les intéressent au moment où ils consultent le site, peuvent se créer un profil et à ce moment-là, il y aura un jumelage qui sera fait quand une offre de bénévolat s'apparentera aux intérêts du candidat.
Voudriez-vous nous rappeler le nom du site et du lien, s'il vous plaît?
Jebénévole.ca.
Donc, c'est vraiment très, très facile à trouver. Dites-moi, je ne sais pas si vous allez être capable de me répondre à cette question-là, mais par rapport aux autres provinces canadiennes, est-ce que le Québec est fier de ses bénévoles? Est-ce qu'on en a plus, moins, c'est pareil?
On en a un petit peu moins qui s'impliquent officiellement auprès d'organismes.
OK.
Donc, des bénévoles impliqués auprès d'organismes, au niveau canadien, on est autour de 44% là, selon les dernières études, alors qu'au Québec, bon, selon la dernière étude de Somme, on est à 38%. Alors, il y a un petit peu moins d'implication officielle auprès d'organismes.
Mm.
Par contre, Statistique Canada avait été le premier à poser la question, est-ce que vous donnez du temps de façon libre et gratuite pour un individu qui ne vit pas chez vous, qui n'est pas membre de votre famille? Donc, toute la question du bénévolat non encadré. Et à ce niveau-là, on était assez équivalent aux autres provinces canadiennes avec notre 75%. Là, ouais.
Pour les gens qui hésiteraient en ce moment encore à faire du bénévolat, qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils se lancent dans cette aventure?
C'est très valorisant faire du bénévolat. C'est gratifiant de voir l'impact qu'on peut avoir sur notre communauté. Les gens ont souvent l'impression que les bénévoles sont surtout impliqués en santé et en services sociaux. Ce que notre sondage nous a révélé, c'est qu'au contraire, c'est au niveau de la culture et des loisirs que les bénévoles s'impliquent le plus.
Oui, parce que voyez-vous, je vous ai même pas posé la question parce que j'étais sûre justement que c'était surtout au niveau de la santé.
Non.
Et c'est au niveau des loisirs et de la culture.
Oui, au niveau de la culture et des loisirs. Et en fait, l'organisation d'événements, quand on demande aux gens quelles sont les tâches que vous faites en tant que bénévole, l'organisation d'événements arrive en deuxième position tout de suite après apporter un soutien de santé, un soutien pour l'accompagnement aux gens. Alors, donc c'est vraiment la culture et les loisirs qui remporte la palme quand on regarde quel secteur a le plus de bénévoles, ou en fait, où est-ce que les bénévoles s'impliquent le plus, c'est en culture et loisirs. Donc, le bénévolat, ça peut demander quelques heures par semaine. C'est sûr que des gens peuvent s'impliquer de façon plus soutenue, mais les organismes sont capables de s'adapter et ont des besoins de différentes natures. Donc, autant pour un 3 ou 4 heures par mois que pour un 30 heures par mois, il y a de la place pour les bénévoles. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral.
Oui, c'est vrai.
C'est
surtout pour les gens qui sont un peu déprimés, je dirais. Hein. Ça fait tellement du bien à l'ego et je pense qu'on a besoin de ça quand on déprime.
Ben oui, et ça nous donne des résultats. On est capable de voir quel a été le résultat de ma contribution. Donc ça, c'est très intéressant.
Madame Fournier, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la directrice générale du réseau de l'action bénévole du Québec. L'acronyme, c'est RABQ. Mm-hmm. Je suis très contente de vous avoir parlé aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez très hâte de voir les chiffres. Ce sera quand? À l'automne 2018?
Les chiffres, les nouveaux chiffres oui. de Statistique Canada, en fait, l'étude est en cours actuellement, donc normalement, ça prend presque 2 ans avant que ça sorte.
Eh bien, écoutez, croisons-nous les doigts pour que les chiffres soient encore plus élevés et qu'on soit fiers de notre population qui donne de son temps. Et c'est important. Merci beaucoup, Marie-Lyne Fournier. Bonne
Merci.
Journée.
Au revoir.
Je n'avais jamais entendu parler de cela. Et vous, le phénomène des araignées qui volent, c'est dans le journal métro.com, le phénomène des araignées qui volent, qui tombent du ciel et qui voyagent comme des montgolfières sur des centaines de kilomètres, vient de trouver une nouvelle explication. La charge électrique naturelle de l'air qui accrocherait les fils de soie des arachnides. Ces voyages aériens d'araignées ont été observés depuis longtemps. Charles Darwin lui-même en personne l'avait noté dans son journal au 19e siècle. Eh bien, une hypothèse étudiée de près était que les araignées tissaient des fils très fins qui étaient ensuite emportés par le vent, parfois sur de très longues distances et à des altitudes de plusieurs kilomètres. C'est ce qu'avait décrit en juin le chercheur Monsung Cho dans la revue PLOS Biologie. Eh bien, en voilà un qui va changer ses plans pour les quelques années qui lui restent à vivre. C'est au Japon. Un homme âgé de 82 ans vivait absolument seul sur une île déserte. On l'appelait l'homme l'ermite nu. Eh bien, il a été contraint de retourner à la civilisation pour des raisons médicales. Depuis 29 ans, Masafumi Nagasaki était l'unique habitant de Sotobanari, un îlot d'environ 1 km² au sein de l'archipel Yaeyama, c'est à l'extrême sud du Japon. Il avait choisi cette terre isolée dont le nom signifie lointaine île extérieure, ben pour vivre simplement loin de la civilisation. Les autorités japonaises parfois lui rendaient visite et c'est comme ça qu'ils ont constaté que son état de santé se dégradait. Alors ils l'ont ramené en lieu sûr.
Vous écoutez Aime l'été.
Et c'est la seconde partie de cette émission qui vous proposera une chronique que j'espère que vous serez nombreux à écouter. Chronique qui s'intitule « Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde » et ça nous sera offert par François de Beaulieu. Et puis, je vais aussi m'entretenir avec Annika Kapuscinska, qui est directrice des communications de la SPCA de Montréal. C'est un sujet beaucoup moins heureux, mais il faut en parler de ces animaux qu'on oublie derrière nous au moment des déménagements, notamment.
Aime ton corps. recommencé par Hubert Lenoir à Aime l'été.
Ah, c'était justement lui, Hubert Lenoir. Ben, je suis contente d'avoir entendu une de ses chansons. En fait, j'en entends souvent, mais je ne sais jamais que c'est lui qui chante. Alors, merci beaucoup, Maurice. Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Et François de Beaulieu est là aujourd'hui pour nous le rappeler. Bonjour, François.
Bonjour, Clotilde, et bonjour à vos auditeurs.
François, ça fait maintenant deux ans et demi, d'ailleurs suite à une expérience ici même à Canal M, que vous avez cette capsule qui s'intitule « Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde » qui est diffusée via Facebook, ma foi avec beaucoup de succès. Qu'est-ce que vous présentez au sein de ces capsules-là? Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre merveilleux?
Eh bien écoutez, tout d'abord, c'est vrai que je suis heureux d'être ici aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est ici même que j'ai fait mes débuts avec cette belle émission. Alors, le titre, effectivement, est radieux. Et ce qu'il se passe derrière, ben, c'est simplement que notre monde, notre quotidien, est souvent alimenté, recouvert par des mauvaises nouvelles dans tous les secteurs qu'on peut imaginer. Alors, le jour où je suis venu ici faire mes débuts, je me suis proposé comme défi eh bien, de chercher jusqu'à ce que je trouve des innovations, des initiatives qui font une différence heureuse dans la vie des gens. Eh bien, le croirez-vous, chaque semaine, effectivement, depuis janvier 2016, chaque semaine, c'est l'occasion, à travers une chronique, à travers un entretien, de découvrir ces innovations, ces initiatives qu'on ne pourrait pas imaginer autrement.
Et moi, je vous ai proposé de venir nous en partager quelques-unes. Et je voudrais que vous nous présentiez cette première initiative heureuse qui nous vient, je pense, de France.
Absolument, ça nous vient de France, mais fondamentalement, vous allez le réaliser très vite, ça pourrait se passer dans bien des pays. Uh-huh. Alors, de quoi s'agit-il? Une jeune femme, une jeune journaliste, réalisatrice de talent, un jour a décidé eh bien, de s'engager avec son époux dans une démarche que nous allons découvrir. Je vais vous proposer des extraits de l'entretien D'accord. que j'ai réalisé avec elle. Et vous allez voir, c'est ce dont elle va nous parler là, maintenant, eh bien, c'est le début d'une histoire étonnante, d'une histoire que j'ai trouvée inspirante. Alors, je vous propose de l'écouter et puis ensuite, nous irons plus loin dans cette aventure.
D'accord.
C'était il y a un an, tout pile. Moi, j'en étais arrivée à un point où j'avais de plus en plus de mal à me mettre des œillères, à passer mon chemin en voyant quelqu'un qui me demandait une pièce dans la rue, en voyant cette crise migratoire qui s'affiche un petit peu partout dans les médias. Ça me devenait insupportable de faire comme si de rien n'était, mais j'avoue que j'avais pas de solution, je ne savais pas comment faire, quoi faire, comment agir. Et puis, un jour, j'ai vu une annonce postée sur Internet par Judith Akienne, qui a fondé l'école TOT, qui est une école diplômante à destination des réfugiés et des demandeurs d'asile. Je suivais les activités de cette école. Et Judith a posté une annonce, car deux de ses étudiants, demandeurs d'asile, recherchaient un hébergement pour quelques nuits. Et voilà, sans trop réfléchir, j'ai envoyé un message en disant que nous avions une chambre. Et là, tout est allé très vite. Abdelak est arrivé chez nous le lendemain matin. Voilà, Abdelak est un jeune exilé, un jeune migrant, communément appelé migrant tchadien, qui a quitté son pays très très jeune, à 14 ans. Voilà, à ce moment-là, j'ignorais tout de lui, il ignorait tout de nous, et j'ai ouvert ma porte et ça a été le début d'une histoire incroyable.
Dès le lendemain matin, comment s'appelle cette femme?
Alors, il s'agit de Julia Montfort. Une jeune réalisatrice de talent, comme je le disais, évidemment, à travers son travail de réalisatrice, elle est confrontée à ce que l'on appelle les enjeux de société. Elle a réalisé et elle continue de réaliser pour l'équipe de Public Sénat en France des reportages documentaires dans le cadre de les dessous de la mondialisation. Et j'ai vu certains de ces reportages qui sont absolument surprenant. Alors, elle vient de nous expliquer donc le début d'une histoire incroyable, mais avant de la laisser poursuivre, j'ai voulu donner la parole à Abdelak, donc ce jeune Tchadien, qui va nous expliquer comment lui a vécu son arrivée chez Julia et chez le compagnon, le conjoint de Julia.
En fait, tout d'abord, moi, j'ai trop fier de Julia et Cédric. J'ai trop content. En fait, moi, j'ai vécu une situation trop difficile. En fait, j'ai vécu au Libye dans les familles et en France aussi dans la famille. Et ça change beaucoup, c'est pas pareil, ça change beaucoup, 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 beaucoup. Et moi, je suis trop, trop, trop content de Julia et Cédric. J'étais dans la rue, même comme vous dites, j'étais dans la rue, c'était trop difficile. Il y a des froids, il y a de l'eau, il y a même manger aussi de temps en temps. Ils amènent les manger, parfois il n'y a pas de manger. Et ça, j'ai vécu une situation qui est trop difficile pour moi. Et j'ai rencontré Cédric et Julia, je suis très fier d'eux.
Quand même, son destin a changé à ce garçon-là, c'est ce qu'on comprend. Hein.
Absolument. Il est depuis un an chez Julia et chez le conjoint de Julia. Sa vie, effectivement, a complètement changé. Julia va nous dire maintenant tout ce qui s'est passé et puis surtout ce projet auquel elle donne naissance et qui s'appelle donc les carnets de solidarité. Mais avant de lui rendre la parole, j'aimerais juste ajouter ceci. J'ai souhaité que Abdelhak donc participe à cette émission aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, on a bien compris évidemment qu'il est en train d'apprendre le français. Mais pour moi, il était important qu'il puisse prendre la parole parce qu'il aura rarement eu l'occasion dans sa vie jusqu'à présent de parler de lui-même. Et l'autre raison, c'est que fondamentalement, tout ce que nous allons entendre maintenant aura débuté avec cette belle histoire dont il est le principal acteur et que ça me paraissait important, évidemment, que ce ne soit pas seulement une histoire d'adulte parlant de ce jeune homme. Alors voilà, maintenant, je vous propose d'écouter à nouveau Julia Montfort, qui va nous expliquer pendant un an ce qui s'est passé et pourquoi et comment ça a donné naissance donc à ce merveilleux projet, les carnets de solidarité.
Si vous voulez, ouvrir ma porte, ça a été ma réponse citoyenne. Le moins que je puisse faire, c'était d'ouvrir ma porte à quelqu'un. Et puis, au fil des jours, puis des semaines et puis des mois, puisque un an après, Abdelhak est toujours chez nous, parce que rapidement, on a eu envie de l'aider. On s'est posé la question assez rapidement de la durée de son séjour chez nous. Et puis, petit à petit, on s'est dit, mais si nous l'aidions, il faut lui trouver des solutions, le sortir de l'impasse administrative dans laquelle il se trouve. Et puis, petit à petit, cette expérience, cette aventure humaine m'a tellement bouleversée et a tellement bouleversé mes proches que je me suis dit que peut-être il fallait que je la raconte, que nous racontions notre histoire, qu'Abdelhak puisse raconter la sienne pour que l'on puisse un petit peu... en tout cas, cette rencontre nous a ouvert les yeux et je me suis dit que j'avais envie de la partager. Et donc là, bon, bah, c'est mon métier qui peut-être m'a donné envie de faire ça. Je me suis dit que voilà, j'ai une caméra à la maison, donc allons-y, commençons à filmer, à documenter notre quotidien. Et puis très rapidement, j'ai mûri un projet et je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin, de partir de notre histoire, mais surtout d'aller à la rencontre de Français solidaires, parce que j'ai l'intuition profonde que les citoyens sont plus solidaires qu'on ne le pense. À l'heure du repli sur soi, on a l'impression que les Français se renferment. Certains discours nous décrivent une nation du repli sur soi. Et je me dis qu'il serait peut-être bon de montrer une autre réalité qui existe elle aussi, qui passe sous les radars médiatiques. Cette réalité-là ne fait pas la une des journaux, notamment parce qu'aujourd'hui encore, on criminalise l'aide à autrui. On peut finir devant un tribunal pour un geste d'humanité, principalement dans l'aide au transport, ou en tout cas dans l'aide au passage de la frontière, c'est dans l'actualité actuellement. Donc je me suis dit que ces gens-là, malgré tout, j'avais envie d'aller à leur rencontre et que peut-être ils accepteraient de me parler, de me raconter leurs histoires. Et j'ai donc lancé ce projet des carnets de solidarité pour essayer de mettre la lumière sur ses compagnons de l'ombre. L'idée, c'est de partir sur une... Alors, moi, je fais un pas de côté parce qu'habituellement, je travaille pour la télévision. Mais j'ai envie de lancer un projet qui va s'écrire chemin faisant, au fur et à mesure. Je n'ai pas envie de rentrer dans un moule d'un format de documentaire. Donc, ça va se présenter sous la forme d'une web-série documentaire qui sera hébergée sur YouTube et qui va voilà, se décliner sous la forme d'épisodes, probablement une dizaine pour la première saison. L'idée, c'est d'aller... voilà, à la rencontre de ces citoyens solidaires, de démystifier au fond la figure de l'étranger, d'essayer d'estomper les craintes, d'estomper les peurs. Enfin, il y a tellement de choses, et tellement de chapitres possibles sous cette thématique de la solidarité, de l'hospitalité, que je pense qu'on est parti pour peut-être plus d'une saison des carnets de solidarité.
Alors, c'est effectivement une belle histoire qui est en train de se poursuivre avec ces carnets de solidarité. J'aimerais, avant de vous laisser conclure, Clotilde, préciser ceci. Leïla Slimani vient d'accepter d'être la marraine des carnets de solidarité. Alors, pour vos auditeurs, précisons tout de suite qui elle est. Il s'agit, bon, c'est une écrivaine, auteure franco-marocaine, pardonnez-moi. Elle a eu le prix Goncourt en 2016. Mais elle est également la représentante personnelle du président français Emmanuel Macron pour la francophonie. Alors je crois que cela est de bon augure et qu'on peut souhaiter effectivement à Julia, à Abdelhak et à tous ceux qui vont participer à ces carnets de solidarité, eh bien, la plus belle des aventures.
Merci beaucoup et j'invite nos auditeurs à découvrir vos capsules. Il suffit d'aller sur Facebook et de faire François H. Beaulieu où il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde.
Sous le nom de l'émission, il y a une page qui lui est dédiée.
Merci.
Ta femme te manque, ta clope te manque, tu commences à te sentir morose. Ton compte en banque dans lequel tu planques, bah pas grand chose. Y'a la déprime qui te caresse, avec sa copine la paresse. Tu dis que tu voudrais crever, que la routine te tient en laisse. Et c'est moi qui te traîne, j'en peux plus de t'entendre. Tu me donnes la migraine, mais quand vas-tu comprendre? Ne dis pas que c'est la vie. Te prenais pour un ange, plus rien ne te plaît, je connais le couplet et rien ne change. Y'a ton frangin, le désespoir, qui vient te conter ses histoires. Elles finissent toujours tard la nuit, sur un trottoir ou dans un bar. Et c'est moi qui te ramasse, quand tu finis par terre, quand ton cœur boit la tasse. À la petite cuillère, ne dis pas que c'est la vie. Je veux bien te consoler, l'ami, si t'arrêtes de pleurer. T'écoutes encore et encore. Pour moi non plus, ça va pas fort. Mais comme tu pleures plus fort que moi, c'est toi qu'on écoute à chaque fois. Tu sais, les femmes, c'est comme les flammes. Ça brûle souvent sans prévenir. Demain, c'est sûr, comme une blessure, elle va revenir. Ne dis pas que c'est la vie. Je veux bien te consoler, l'ami. Si t'arrêtes de pleurer, promis.
Nazim, on refera le monde.
Oui, et ce monde, on le sait, avec François de Beaulieu notamment, et on le vit tous les jours, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde, mais il y a aussi du lait qui se passe encore dans le monde. J'en veux pour preuve, par exemple, tous ces animaux qui sont abandonnés et nos SPCA qui débordent, et le problème revient tous les ans. Et pour nous en parler, nous avons invité pour vous Anita Kapuscinska, qui est directrice des communications à la SPCA de Montréal. Bonjour Anita.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. Ça va bien, mais on est toujours triste hein, d'aborder ce sujet-là. Il semblerait que le nombre d'animaux abandonnés passe d'à peu près 600 à 1600 entre les mois de mai à août à Montréal. C'est bien ça?
C'est certain qu'à tous les années, on voit la même problématique qui revient sans cesse. Puis comme vous dites, depuis le mois de mai, on reçoit beaucoup plus d'animaux. C'est la période la plus occupée pour nous.
Anita, moi je veux croire en l'homme, je veux croire en l'être humain. Je ne peux pas croire que ce soit uniquement des gens méchants, des gens qui n'ont pas d'allure, qui abandonnent comme ça leurs animaux. Vous êtes d'accord avec moi ou pas?
Effectivement, absolument. C'est certain qu'à la SPCA, nous connaissons malheureusement bien le problème de propriétaires irresponsables qui acquièrent un animal sur un taux de tête. Mm-hmm. Mais effectivement, il y a toujours des situations qui sont beaucoup plus difficiles, telles que le déménagement. On le sait très bien que c'est très difficile pour les gens de trouver un logement où ils peuvent garder leur animal. Donc, les clauses qui interdisent les animaux dans les baux résidentiels, c'est un vrai problème. Ils sont extrêmement discriminatoires, particulièrement pour les familles à faible revenu, en raison de leur choix qui est beaucoup plus limité. Donc, c'est une situation qu'on vit à tous les années.
Mais les propriétaires ont vraiment le droit, Anita, d'avoir une clause sur un bail pour une location? Ils ont vraiment le droit d'écrire « animaux interdits » ?
Malheureusement, c'est notre réalité en ce moment-là
C'est vrai,
Québec.
Donc.
Exact. On aimerait beaucoup que le Québec suit l'exemple d'Ontario, Belgique et même la France, qui ont rendu ces clauses nulles et sans effet. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment voir ici à Montréal aussi, au Québec.
Même. Et ça s'appuie donc sur une loi? Il n'y a pas de
effectivement,
doute.
Effectivement, exactement, bon. Malheureusement.
Alors, en ce moment, à la SPCA, c'est une situation, encore une fois, difficile à vivre pour les animaux, pour les employés. Ça déborde de partout, c'est bien ça?
Oui, c'est certain qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent au fait qu'on accueille près de 50 animaux par jour pendant cette période.
Par jour.
Donc, c'est certain qu'il y a les déménagements. Il y a toujours des animaux abandonnés, des animaux trouvés errants. C'est aussi qu'est-ce que nous, on appelle à l'interne la saison des chatons. C'est très connu que les chats se reproduisent à une vitesse de grand V. Donc, à tous les jours, à toutes les semaines, on accueille plusieurs portées de chatons qui sont apportées à nos portes. Nous sommes aussi un des seuls refuges qui accepte les animaux de la faune. Donc, on reçoit aussi beaucoup d'animaux orphelins ou des ratons laveurs blessés, par exemple. Donc, ça c'est aussi. Donc, tous ces facteurs ensemble font qu'on est très occupés. On a vraiment besoin de l'appui du public pour trouver des familles pour ces animaux. Là, je ne parle pas des animaux de la faune, mais évidemment, je parle plutôt des chats, chiens, lapins, oiseaux. Mais effectivement.
Ôtez-moi d'un doute, Anita Kapuscinska. Je me disais, s'il y a autant d'abandon, il y a peut-être aussi plus de gens qui adoptent en ces périodes estivales, ou c'est une erreur de penser ça?
Je dirais que c'est plus une erreur de penser ça. C'est certain qu'il y a beaucoup d'animaux qui se retrouvent errants. Les animaux qu'on accueille, qui étaient trouvés errants, c'est certain qu'on ne va jamais savoir pourquoi ils se sont retrouvés dans notre refuge. Donc, on ne va jamais avoir les réponses à 100% des raisons d'abandon pour chaque animal. Il y avait des sondages qui ont suggéré que la personne en moyenne au Québec garde un animal moins de 2 ans. Puis c'est quelque chose que je trouve qui bien, évidemment, c'est malheureux, c'est horrible, mais en regardant l'âge moyen des animaux qui rentrent à la SPCA, la plupart, ils ont moins d'un an. Donc, pour moi, ça, je crois que c'est vraiment ça, que les gens sont juste pas conscients de qu'est-ce que ça coûte. C'est quoi les responsabilités associées à un animal? Il faut pas donner un animal comme cadeau à quelqu'un, par exemple. Si vous prévoyez aller en vacances, il faut penser à quelqu'un qui va prendre votre animal pendant cette période, ou trouver une garderie pour votre chien. Donc, c'est tout, ou pour votre chat, c'est tout des trucs qu'il faut prévoir. C'est certain, quand on accueille un animal dans notre vie, ça change notre style de vie. Puis, pour une dizaine d'années aussi, donc il faut être prêt à accueillir cet animal, puis il faut être prêt de prendre cette responsabilité.
Anita, je voudrais que vous nous parliez du MAPAC et des liens de la SPCA avec le MAPAC. D'abord, rappelez-nous, qu'est-ce que le MAPAC?
Bien, pour parler du MAPAC, on pourrait en parler avec une de mes collègues qui est porte-parole sur le sujet.
D'accord.
Donc, c'est une avocate. Mais bien évidemment, nous avons récemment lancé une campagne. Le MAPAC, c'est le ministère de l'Agriculture. Mm-hmm. Puis, depuis de nombreuses années, la SPCA de Montréal a des inspectrices et des inspecteurs qui peuvent appliquer la loi au provincial et au fédéral.
Oui,
c'est ça. Puis depuis...
Une loi qui interdirait, qui fermerait les usines à chiots que nous avons sur notre territoire. C'est bien ça?
Bien, c'est certain que le MAPAC, il y a 2 ans et demi, après l'adoption du projet de loi 54 visant à améliorer la situation juridique des animaux, les usines à chaux étaient supposées devenir chose du passé. Malheureusement, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de promesses que le gouvernement avait brisées, puis il protège pas les animaux d'une façon qu'on devrait voir, parce que la loi, en effet, est très bonne, mais la façon qu'elle est appliquée est très laxiste.
Pourquoi? Faute de moyens? Faute de ressources humaines?
C'est très difficile à savoir le pourquoi. C'est certain que depuis le 31 mars, le gouvernement n'a pas renouvelé les contrats avec les SPA et les SPCA à travers le Québec pour pouvoir appliquer ces lois. Donc, est-ce que c'est une faute de ressources? Mais les ressources sont là. Il y avait aussi de... en ce moment-là, on voit que les usines à chiots, les gens qui ont des usines à chiots, ils reçoivent toujours des permis pour pouvoir continuer à travailler. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Puis, j'invite tout le monde à visiter promessesbrisées.spca.com pour en apprendre davantage, puis prendre action aussi sur cette situation qui doit vraiment changer.
Vous l'appelez comment? Promesses privées?
Promesses brisées,
pardon. Excusez-moi, il y a eu un petit craquement à ce moment-là et j'étais pas sûre. Voilà, donc promesses brisées, on peut aller visiter ce site-là. Et puis, en conclusion, il faut malheureusement rappeler qu'il y a 2 problèmes énormes. Donc, l'abandon, on en a parlé, mais aussi ces usines à chiots. Et moralité, si en ce moment vous êtes un auditeur, si vous nous écoutez, si vous avez bien réfléchi au fait d'avoir un chat, un chien, un lapin, un oiseau ou autre, et que vous vous sentiez un bon candidat, bien plutôt que d'aller l'acheter dans un magasin, allez donc en sauver un. Moi, j'ai une petite puce comme ça dont j'ai hérité et elle me rend tellement heureuse, si vous saviez. Alors, c'est un geste à faire. Informez-vous à la SPCA. Il y a en ce moment de toutes les races et de tous les âges et ces animaux-là ont besoin de vous. C'est bien ça, Anita?
Absolument, exactement. Venez nous voir, nous conseiller, nous conseiller en adoption. Il fera un plaisir de vous aider, de vous répondre à toutes vos questions et de s'assurer qu'on trouve un bon jumelage pour votre situation.
Anita Kapuscinska, je rappelle que vous êtes directrice des communications de la SPCA de Montréal. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Et merci à vous.
Au revoir. Vous écoutez Canal M et c'est MLT.
Vous écoutez MLT.
Et c'est Clotilde Saye en votre compagnie. Alors pendant cette troisième et dernière partie de l'émission Aime l'été, il y aura une chronique toponymie avec Christiane Campagna qui va évoquer le nom de rue de Madame Jeanne Mans. Et puis une chronique littéraire avec « Zut, j'ai raté mon gâteau » d'Annie l'Italien.
Je m'en vais au hasard, je garde tous mes rêves, je m'égare tout entier sur un long chemin sans trêve, poursuivi d'un passé qui se voudrait le mien, emporté par les vents, il n'en reste plus rien. Ya ba 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 bye 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 bye, la nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 bye 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 bye. Qui me couvrent de leur voix. Ya ba 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 bye 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 bye. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye. Tu n'es pas seul au monde. Je vois les étoiles. Ya ba 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 bye 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 bye. Qui me couvrent de leur voix. Ya ba 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 bye 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 bye. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye. Tu n'es pas seul au monde. Sur cette route infinie, en rêvant je voyage. Dans des lieux sans amour, je pose mes bagages. Cette ville qui m'accueille, ce sont mes derniers pas. Et je cherche le repos, mais ne le trouve pas. Ya ba 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 bye 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 bye. La nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 bye 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 bye. Qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 bye 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 bye. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye. Tu n'es pas seul au monde. Il ne reste qu'un hier et demain a disparu. Tant d'espoir m'abandonne et je ne rêve plus. Le jour où la moisson fleurira le désert, je pourrai retrouver mon soleil et la mer. Ya ba 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 bye 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 bye. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye. Tu n'es pas seul au monde. Ya ba ba bye 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 bye. La nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 bye 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 bye. Qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 bye 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 bye. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye. Tu n'es pas seul au monde.
Enrico Macias, tu n'es pas seul au monde, il y a Canal M.
Merci beaucoup Maurice. En studio maintenant avec moi, Christiane Campagna. Ça va bien Christiane?
Oui, ça va bien Clotilde.
Christiane est une passionnée d'histoire et elle nous a proposé cette année à l'émission de nous parler des noms de rue. Pourquoi telle personnalité pour tel nom de rue? Puis des femmes, il n'y en a pas tant que ça, alors on est content d'en avoir trouvé une.
Non, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mm. Je vais voir si je peux vous parler d'une deuxième femme à un moment donné.
Hey, c'est terrible.
Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais que serait, j'y vais moi avec des noms qu'on trouve dans plusieurs villes
oui,
ou dans des grandes villes importantes. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de Jeanne Mance.
Oui.
Qui est cofondatrice de Montréal, mais ça, on va y revenir, et fondatrice de l'Hôtel Dieu, un des premiers hôpitaux en Amérique du Nord et le deuxième en Nouvelle-France. Elle vient de la Champagne, Jeanne Mance. Elle est née en 1606 et elle aurait développé ses talents d'infirmière pendant la guerre de 30 ans au sein d'organismes charitables de la région. Elle ne ressent pas l'appel du mariage, mais plutôt une vocation de missionnaire, mais de missionnaire laïque. Jeanne Mance n'a jamais prononcé de vœux officiels. Et elle s'intéresse à la Nouvelle-France depuis qu'un cousin lui a parlé des hospitalières de Dieppe et des Ursulines qui s'étaient établies à Québec. Puis elle entend parler d'un groupe de religieux et de laïcs qui a mis sur pied une organisation qui porte le joli nom de Notre-Dame de Montréal pour l'évangélisation des sauvages de la Nouvelle-France, qui souhaite créer une colonie missionnaire pour convertir les Amérindiens au catholicisme. Ils rêvent d'une communauté idéale regroupant des Amérindiens et des Européens, qui vivraient et travailleraient côte à côte. J'ai toujours dit, le projet initial de Montréal, c'est comme un « peace and love and religion ».
Oui, et le « religion » est très important.
Très, très important.
Ouais.
C'était vraiment des mystiques, contrairement aux autres fondateurs qui fondaient des emplacements pour le commerce de la fourrure. Alors, elle avait justement, Jeanne Mance, reçu de l'argent d'une donatrice anonyme parisienne, Madame de Bullion. Non, un autre nom de rue d'expliquer. Il y a comme ça par la bande, il en vient comme ça de temps en temps.
Bullion, c'était une madame.
Oui, c'était une madame riche. Qui donnait de l'argent. Ben, faudrait que je vérifie ceci dit. C'est pas parce qu'il y a une madame de Bullion et une rue de Bullion.
Ah!
Faut vérifier.
Ah! Un coup que ce soit son mari, genre. Qu'elle ait pris le nom du bonhomme et que ce soit le mari qui soit célébré.
On vérifiera.
OK.
Mais c'est elle qui lui fournit les fonds dans le but de fonder l'Hôtel Dieu. Les Montréalistes, comme on les appelle, arrivent le 17 mai 1642 à l'emplacement qu'on surnommera plus tard la Pointe-à-Calière, lorsque Hector de Calière y fera son château. Bien, sa maison, mais c'est une grosse maison pour le coin. On appelait ça le château à Calière. Et elle est officiellement reconnue comme cofondatrice de Montréal seulement depuis le 17 mai 2012.
Oh, mais c'est pas vieux ça, madame, c'est avant-hier.
Non. Et pourtant, dès le 17e siècle, Delier de Casson, qui a beaucoup écrit sur l'histoire de Montréal, décrivait Mademoiselle Mance et le gouverneur de Maisonneuve comme les cofondateurs de Montréal. C'est elle qui avait les cordons de la bourse, c'était l'administratrice, la trésorière. Elle a même utilisé une partie de l'argent de Madame de Bullion pour faire venir des soldats pour défendre la colonie à un moment où plus personne ne voulait venir. Elle a pratiquement sauvé la colonie. Alors, son titre de cofondatrice est grandement mérité.
Autrement dit, elle aurait pu avoir un pont! Mesdames et messieurs! Voilà.
Quoique Maisonneuve n'est pas plus représentée que ça. Il y a le boulevard Maisonneuve, mais
même
pas un métro.
Non, c'est vrai.
C'est quand même surprenant.
C'est vrai.
Alors, l'Hôtel Dieu, dès 1643, elle aurait installé un petit hôpital à l'intérieur des palissades du fort qui rapidement a attiré les Hurons. Et en 1644, on se met à la construction d'un nouveau bâtiment. L'Hôtel Dieu a brûlé, a été reconstruit, etc. Évidemment, son emplacement actuel n'est pas l'original, mais tout de même... avec l'apparition du gros chum, tout ça, il serait l'avenir de ce bâtiment-là nous préoccupe parce que c'est une trace importante de notre histoire qui disparaîtrait si ça changeait de vocation et surtout de nom. Oui.
D'ailleurs, vous parlez d'incendie. C'est incroyable comment les incendies ont changé la face de Montréal, mais dans tous les sens du terme, pas seulement sur le plan architectural.
Non.
C'est fou le nombre d'incendies. Tiens, ça pourrait faire des bonnes chroniques. Les incendies qui ont changé Montréal et d'autres villes du Québec, évidemment, et du Canada.
Oui, mais à Montréal, 1852 notamment est une date très, très importante. Depuis 1929, une importante statue de Jeanne Mance en métal est érigée à l'extérieur de l'Hôtel Dieu, qui symbolise la fondatrice. On a donné son nom à une école, à une rue et à un parc à Montréal, à une circonscription électorale aussi.
Oui.
On a donné son nom à une école à Drummondville. Et depuis 1976, on a donné son nom à l'édifice du ministère de la Santé à Ottawa. Il y a même des lycées en France qui portent le nom de Jeanne Mance.
En France?
Oui.
Mon Dieu, déjà qu'ils ne savent plus qui est De Gaulle, alors Jeanne Mance, ils vont être perdus, les pauvres petits choux.
C'est à Langres et à Troyes.
Ah oui?
Mais c'est des endroits où elle a... À Troyes, c'est là où elle a découvert sa vocation de missionnaire. Mais moi, j'ai une idée d'autre chose qu'on devrait nommer Jeanne Mance. Parce que voyez-vous, à l'exception, un peu par la bande de Square Victoria, il n'y a aucune station de métro qui porte un nom de femme. Aucune. Et la façon dont les stations de métro sont nommées, elles ne sont pas nommées directement, c'est toujours le nom d'une rue à côté. Le station Honoré-Beaugrand, c'est parce que c'est à côté de la rue Honoré-Beaugrand, et ainsi de suite. Donc, le cas le plus simple pour nommer une donner un nom de femme à une station de métro, ce serait le Métro-Parc. Puisqu'à cette hauteur, la rue Jeanne-Mance passe tout à côté.
Oui.
Que Parc, ce n'est pas une personne, on débaptiserait personne.
Vous êtes sûr de ça, là? Il y avait peut-être un Monsieur Parc ou un...
Non, c'est pour... Non, Parc est nommé... Le Métro-Parc, c'est à cause de l'avenue du Parc, et c'est le Parc du Mont-Royal qui a déjà une autre station de métro sur le plateau.
Ben alors, est-ce que vous avez envoyé quelque chose? Faites circuler une pétition, moi je la signe.
Alors, selon moi, ce serait le cas le plus simple pour rectifier, parce que sinon, on fait quoi? On attend la ligne rose?
Ah oui, ça non, pourrait attendez, être long. Là, oui, ça pourrait être long. Merci beaucoup, Christiane Campagna.
Je vous en prie.
Il y a beaucoup de villes qui ont été chantées mères, rien n'est jamais tout rose et c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Cherfi, à Sicro, Famouze. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Il y a beaucoup de villes qui ont été chantées mères, rien n'est jamais tout rose et c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Cherfi, à Sicro, Famouze. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Je suis pas né à Montréal, mais j'y mourrai peut-être un jour, puisqu'il faut finir quelque part. Sur Sainte-Catherine, ce serait pas mal, non? Une mort glauque et pathétique, entourée de putes et de flics, les unes pleurant, les autres crachant. Et moi aux anges, en me disant que Montréal n'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. Au milieu du parc La Fontaine, entouré de chiens et de chiennes et de leurs mêmes tenues en laisse, qui chuchoteraient comme à la messe. Au milieu du chant des oiseaux qui, si ce jour-là il fait beau, me siffleront des chants d'amour. En tout cas, c'est ce que je me dirais, car Montréal n'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. Que l'on meurt à Montréal, on meurt entouré, c'est fatal de déchets de passion, de glamour. Usé avant le point du jour, dans le bas-ventre de cette ville, les rues, les filles sont fertiles de la beauté, de la beauté. Et la laideur ne vient qu'après Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. Il y a beaucoup de villes qui ont été chantées mères, rien n'est jamais tout rose, c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Cherfi, à Sicro, Famouze. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Et Montréal n'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. De mourir d'amour. De mourir d'amour à Montréal. Pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. Pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal.
À M l'été, c'était Thomas Jensen, Montréal.
Merci beaucoup, Maurice. Si je ne m'abuse, voyons, mais pas Christiane Campagna, Yannick Olassa est en nom des au téléphone. Bonjour Yannick.
Bonjour Clotilde.
Tout va bien?
Ah oui, quel été.
Oui, quel bel été pour l'instant. Est-ce que vous êtes du genre à sortir à l'ombre en dessous un arbre et profiter du bruit, du vent dans les feuillages pour lire? Moi, personnellement, j'adore. Et vous?
Ah, moi aussi, j'adore ça. Tant qu'il ne fait pas trop chaud, oui. Là, oui.
Alors, et vous, en ce moment, qu'est-ce que vous liriez ou qu'est-ce que vous auriez à nous proposer en dessous cet arbre?
Ben, je vous propose quelque chose de différent.
Hein?
De ce dont j'ai l'habitude de vous parler.
D'accord.
Écoutez, quelque chose de léger.
Comme un air d'été.
Oui, tout à fait, qui va bien avec la chaleur.
Mm-hmm.
Ça s'appelle « Zut, j'ai raté mon gâteau ». Donc, tout de suite, avec le titre, on voit qu'on n'est pas dans de grands sujets très, très
philosophiques, hautement philosophiques, non, c'est
ah,
ça.
Ah non, pas du tout. Mais quand même, il y a quand même des choses à tirer de ce petit roman qui, mm-hmm. Je vous dirais, a été écrit par Annie Italien, qui est une auteure, une autrice québécoise, selon comment on veut les appeler.
Mm-hmm.
Elle écrit des romans qui sont généralement très humoristiques, parfois même grinçant.
Bon, parfait. Alors, ça.
Oui, ben ça fait du bien de rire, hein,
ouais.
Une fois de temps en temps.
OK.
Donc, dans ce roman-là, on suit trois femmes à travers trois époques différentes, en fait. Et deux choses unies ces femmes-là, c'est leur passion, bien sûr, pour la cuisine et une valise verte. Il y a Marie-Juliette qui, en 1934, souhaite devenir chef, hein, ce qui, on s'entend, était un poste qui était rarement occupé par une femme. Et cette jeune Marie-Juliette-là, elle habite encore chez ses parents, donc elle va se lancer dans cette conquête de ce titre, de ce poste-là. On va avoir Hélène aussi qui cuisine pour sa famille, mais qui rêve de cesser d'être à la maison et de vivre de sa passion. Elle vit une relation de couple un peu insatisfaisante, elle tourne en rond et puis elle en vit de plus. Et notre dernière, c'est Émilie, qui rêve de s'ouvrir un restaurant. C'est une jeune maman en 2016 qui rêve de s'ouvrir un restaurant. Et mm-hmm. j'ai oublié de mentionner qu'Hélène, elle, sa vie se passe en 1967.
OK.
Donc, chacune décide de prendre en main les rênes de leur vie et de réaliser leurs rêves. En plus de leur cheminement respectif, ben, dans le roman, Annie Italien a mis les recettes qu'elle concocte. Donc, on a comme un deux pour un. C'est un peu un livre de recettes et un roman en même temps. On s'entend qu'Annie, l'Italien, n'invente rien, ça c'est sûr, mais c'est léger, c'est frais, c'est réconfortant, c'est un peu comme un gâteau des anges.
Hein? Oui.
C'est tout léger, puis ça fait du bien. On peut s'identifier au personnage parce que, ben, écoutez, il y a un peu de chacune de nous dans ces femmes-là. Mmh. Et, comment dire, c'est inspirant aussi parce que ça nous pousse à parfois nous questionner sur certains rêves dont on a longuement rêvé.
Oui, et qu'on n'ose peut-être jamais mettre en route, on n'ose pas, puis voilà
tout
quoi.
Tout à fait. Et puis, chacune de ces femmes a des défis particuliers parce que, bon, elles sont un peu précurseurs. Curseur, là, pour la majorité, en tout cas, dans ce qu'elles font.
Mm-hmm.
Et c'est fort, fort, fort inspirant.
Mm-hmm.
Ce que j'ai aimé aussi, c'est en fait les titres de chapitres qui m'ont bien fait sourire.
Ah oui, allez-y donc.
Je vous en donne quelques-uns.
D'accord.
Il y en a un, c'est 6 litres de bullshit, une pincée de sexisme et 20 millilitres de conviction.
J'adore. Un autre.
5 millilitres de patience, une branche de détermination et 2 litres de soulagement.
Ah oui, je commence à voir un petit peu le ton donné à tout cela.
Oui, c'est ça. Et là, on a 3 cuillères à soupe de contradiction, une pincée d'immaturité, 2 tasses de laisser sa chance au coureur.
Bon, la recette était bonne, alors bien sûr, elle se reproduit de chapitre en chapitre, si
c'est
j'ose
ça.
Dire. Bon.
Exactement. Et c'est vraiment là, très, très, très léger, très agréable. Je vous en lis un tout petit.
D'accord, allez-y donc.
Donc, on est dans 6 litres de bullshit, etc. Pour l'instant, la plus grande préoccupation d'Émilie est l'aménagement de la cuisine. Si elle a pu couper dans les coûts de rénovation, il est hors de question qu'elle lésine en matière d'équipement. Son plus gros problème, c'est qu'elle n'y connaît pas grand-chose. Alors, lorsque l'expert envoyé par le fournisseur se pointe pour discuter avec elle de ses besoins, Émilie a le choix. Jouer la nunuche idiote en détresse qui ne peut survivre sans les compétences du chevalier de la cuisine ou prétendre savoir de quoi il parle. L'option 2 lui semble la moins dommageable pour son orgueil. Toutes ces années passées dans le merveilleux monde du marketing d'entreprise doivent bien servir à quelque chose. L'heure du bullshitage a sonné. Mais c'est qu'il en a des questions, monsieur. La cuisinière 4 ou 6 feux, la friteuse à gaz ou électrique, le grill charbon ou infrarouge, le réfrigérateur porte-pleine ou porte-vitrée, le four à pizza 3 étages ou convoyeur, la table froide 1, 2 ou 3 portes. La quoi? La table froide? Émilie est sur le point de lâcher un involontaire de casser lorsque le chef grognon fait son entrée. C'est la première fois qu'il met les pieds dans le local et aussi la première fois qu'Émilie le revoit depuis qu'il a accepté d'être son mentor. Son entrée en matière en dit long sur son état d'esprit. Il est où le restaurant? Ici, balbutie Émilie. C'est tout? Comment ça, c'est tout? C'est suffisant? J'ai jamais dit que j'ouvrais une salle de banquet. Entre une salle de banquet et une armoire à balais, il y a quand même une marge. Sentant la tension, chevalier de la cuisine plonge discrètement le nez dans son catalogue, laissant chef grognon explorer l'armoire à balais. Tout son corps exprimant sa réprobation, Émilie se retient de hurler. Il lui faut quelques instants pour se calmer et revenir à l'essentiel. Le restaurant lui appartient et elle a choisi volontairement un petit local pour les raisons suivantes. C'est plus chaleureux, c'est moins cher. Avec une seule personne au fourneau, il faut être réaliste quant au nombre de clients qui peuvent être servis dans un délai raisonnable. Chef grognon passe de nouveau à l'attaque. Tu vas l'appeler comment? Microbistrot? Lilliputien Zoros? Chez Rabougri? Le nom n'est pas encore choisi. La seule chose à retenir pour l'instant, c'est que le propriétaire, c'est moi. Alors, c'est comme ça.
Merci beaucoup, Yannick. Très, très plaisant. C'était un extrait de Zut, j'ai raté mon gâteau de Dany l'Italien qui nous était présenté par Yannick Olassa. Merci, Yannick. À bientôt.
À bientôt.
Salut.
Bye.
Morphine, faites tiédir à la casserole un grand verre de pétrole. Je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion tranché très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non! Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif. Je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, tiédir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Non! Je
comprends rien. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez 3 quartiers d'orange. Je vais en mettre 1 seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle.
Et un peu de vitriol.
Non!
Franchement.
N'importe quoi.
Non, mais pas vite, vite.
Hey!
Oui!
Oui! Ah! Je savais que ce serait bon.
Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles?
Thank you.
chronique nous permet ce pronostic. Demain sur les bords d'une île, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois.
Christine Tassin et les imposteurs, le pudding à l'arsenic. Bon appétit.
Oui, première mouture de Christine Tassin et les imposteurs à qui on doit, hein, je le rappelle, le générique, l'indicatif musical de cette émission. Tiens, une petite rubrique, que veut dire cette expression? Expression, celle-ci, elle a l'avantage d'être à la fois française et québécoise. Mais attention, ça ne veut pas dire la même chose. Avoir le feu au cul. Ou si vous voulez, au derrière. Alors, la première signification est attestée dès la fin du XVIIe siècle. Figurez-vous qu'au même moment, on disait aussi avoir le feu aux trousses. Avec le même sens, les trousses étant des hautes choses, des vêtements couvrant les cuisses et les fesses, terme qu'on retrouve également dans l'expression « avoir quelqu'un à ses trousses ». Alors, l'image est claire, on comprend bien que quelqu'un dont le derrière est en flamme, eh bien, se met à courir très vite par réflexe dans l'espoir, idiot, de mettre de la distance entre le feu et lui, même si ce n'est probablement pas la meilleure réaction à conseiller. La seconde signification est apparue dès le milieu du XVIe siècle. Elle est à rapprocher de « être en chaleur », expression principalement utilisée pour les animaux avec une localisation de cette chaleur d'une très forte intensité située sous la ceinture. Et alors, bizarrement, au Québec, cette expression n'a pas du tout le même sens, puisqu'elle signifie, vous le savez, « être fâché ». Nouvelle qui vient de tomber, les ceintures de sécurité seront bientôt obligatoires. Ça, on le sait dans les voitures, mais le savait-on? Et ça nous vient de l'agence QMI, c'était dans le journal de Montréal de ce matin. Tous les autocars de grande et moyenne taille circulant au Canada devront être munis de ceintures d'ici septembre 2020, a fait savoir le ministère des Transports hier. La mesure vise à diminuer les risques d'éjection en cas de collision ou de tonneau. Elle avait été proposée initialement en mars 2007. Elle a été élaborée dans les derniers mois en consultation avec les associations de fabricants de véhicules. Eh bien voilà, c'est ainsi que ça s'achève, mes amis. Je voudrais remercier toute la belle gang de la radio cet été qui travaille fort autour de moi. Je pense à Catherine Bourderon, Anne-Laure Janson, Jean-Sébastien Laliberté, mais aussi celui qui était en régie aujourd'hui, Maurice Bolduc. C'était Clotilde Seille à Canalem. Écoutez notre radio. Et c'était M l'été. Salut.